Donc, je suis le petit-fils d'Edmond Blood, dont nous allons parler ce soir. J'étais très jeune, mais je l'ai connu. C'est pour expliquer les choses. Au moment de son enterrement, je devais avoir 13 ans, ce qui est très jeune. C'est-à-dire que pour la discussion culturelle ou intellectuelle avec Edmond, j'ai pas pu. Mais en revanche, j'ai eu toutes les émotions. Et indirectement, il a eu sur toute mon existence une très grosse influence, puisque j'étais à mon tour 45 ans dans l'édition. Donc j'ai connu à peu près tous les postes, éditeur, directeur littéraire ou directeur d'édition, grâce indirectement à mon grand-père qui a été pour moi un modèle.
Voilà, donc Edmond Blood. Et ça, c'est un petit livret qui a été fait par Christian pour la famille, pour regrouper quelques souvenirs. Donc en commençant à travailler dessus, j'ai vu qu'on ne pouvait pas parler d'Edmond Blood et de la librairie Blood & Gay sans parler de ce qui s'est passé avant et après, puisque Edmond est né dans l'édition et il est mort dans l'édition. Et donc, les protagonistes de l'affaire, ça va être son père, Benoît Blood, Edmond Blood, et après son associé, Francisque Gay. Et la librairie elle-même, elle a duré de 1873 à 1951, sous différents noms. Elle s'est d'abord appelée Blood et Barral, ensuite Blood et Compagnie, et puis enfin Blood et Gay. Et puis le fonds a été vendu à l'édition Des Clés de Brouwer, finalement en 1954. Donc je vais vous parler brièvement de l'origine de la librairie, c'est-à-dire de Benoît Blood. Alors Benoît Blood, il est né à Verdun, dans l'Isère. Et Verdun, c'est un petit village qui est dans la vallée du Rhône, au pied de Colline. Il est né en 1846. Son père était vigneron, petit propriétaire exploitant. C'était un milieu qui n'était pas pauvre sans être un milieu aisé. Il avait mis ses fils à l'école du village. Il y avait déjà quand même des instituteurs dans beaucoup de communes, même s'il n'y avait pas encore d'enseignement primaire obligatoire. Et un jour, une aristocrate de l'endroit demande à l'instituteur s'il n'y aurait pas parmi ses élèves un garçon un peu dégourdi pour l'aider à ranger sa bibliothèque. Alors c'est Benoît Blood qui est désigné pour ce travail. Il va, il s'en acquitte très bien et quand c'est fini, l'aristocrate veut qu'il prenne un livre pour lui, etc. Il dit, mais c'est pas la peine, je les connais tous, je les ai tous lus. L'autre fait quelques vérifications quand même, puis il s'aperçoit que c'est vrai, qu'il dit vrai, qu'il s'est pas contenté de les épousseter, de les ranger, il sait ce qu'il y a comme livre et il sait ce qu'il y a dedans. Du coup, elle convainc ses parents que ce garçon, il mérite des études un peu mieux que l'instituteur du village. Et à la rentrée scolaire suivante, il se retrouve au petit séminaire de l'Isère. Après le petit séminaire, je ne sais pas trop ce qu'il a fait, mais on l'a envoyé à Paris, où il avait des recommandations et était employé chez des éditeurs. Alors, après la guerre de 70, où moi je crois qu'il a fait la guerre, d'autres disent qu'il n'a pas fait la guerre, mais je crois qu'il a fait la guerre, il va, avec un ami qui s'est fait dans l'édition, créer une librairie, la librairie Blood et Barral, qui, au départ, sert de dépôt à une grosse imprimerie de l'Est de la France pour distribuer dans la région parisienne. Mais eux, ils ont dans l'intention de faire de l'édition et ils commencent à éditer des grands textes religieux. Moi, j'ai un ouvrage de Massillon réédité par eux, donc petit à petit, ils font leur trou dans l'édition. Benoît Blood va mourir en 1904, mais entre-temps, il s'était marié, il avait eu deux fils, Henri et Edmond. Edmond, lui, a fait des études secondaires classiques et après, licence de lettres, licence de droit. Il est allé aussi à l'université de Jena en Allemagne. Et c'est un très bon germaniste. À l'époque, c'était un atout dans ce genre d'édition, parce que les exégètes et théologiens allemands et philosophes allemands étaient très réputés. C'était important de suivre leurs travaux. Benoît Blood embauche son fils, le nomme même au conseil d'administration de la maison, et on transforme les éditions Blood et Barral en Blood et Compagnie. En 1904, Benoît décède. Edmond est administrateur de la maison au décès de son père et devient directeur de la maison d'édition. Alors qu'est-ce que c'est la maison d'édition à ce moment-là? J'ai pu m'en faire une idée parce que on m'a fourni un catalogue de Blood et compagnie qui date de 1907. C'est donc sur la production de 1906, bien sûr. C'est loin d'être négligeable. Il y a 427 auteurs référencés dans ce catalogue. 655 ouvrages, hein, dont 80 qui ont été édités de mai à décembre 1906. Et il y en a 30 qui sont sous presse. C'est donc très dynamique. J'ai eu la chance d'avoir accès à une source qui est un mémoire de DEA, qui a été fait sur la librairie Blood & Gay de 1911, date de la création de Blood & Gay, jusqu'à 1939. Elle s'est posé la question aussi du point de départ, et elle a fait une analyse à partir du catalogue de 1910. Mais elle a trouvé des chiffres équivalents, à peu près, une structure à peu près équivalente. Par contre, elle se situe parmi l'édition française. En 1910, donc, il y a 11 000 titres qui sont parus en France. 6,5% concernent des livres d'édition religieuse. Là-dedans, la production de Blood & Cie, c'est encore Blood & Cie à l'époque, représente 20% de l'édition religieuse en France. Donc c'est vraiment une maison dynamique. Pour avoir une idée de ce qui est publié, je vais demander à ma voisine de vous lire la liste des catégories du...
Division du catalogue.
Oui.
Alors, 1. La pensée chrétienne. 2. Bibliothèque de l'enseignement scriptuaire. 3. Études de philosophie et de critique religieuse. 4. Questions actuelles, sociologie, droit. 5. Apologétique, philosophie. 6. Sciences ecclésiastiques. 7. Conférences apologétiques, dogmatiques, morales, etc. Sermonnaires, actions oratoires. 8. Ouvrages de piété. 9. Enseignement, éducation. 10. Littérature, esthétique, histoire de l'art. 11. Histoire. 12. Lectures diverses avec des points de suspension. 13. Médecine, botanique, sciences agricoles. 14. Collection sciences et religions. 15. Publications périodiques. Et 16. Une table alphabétique des auteurs.
Alors dans les publications périodiques, il y a en particulier, il relaie une publication d'une université allemande. Mais vous avez vu d'un sectiste que ce n'est pas cantonné strictement aux religieux, ça se veut aussi d'être ouvert sur la société. Alors on voit par exemple une rubrique de droit à l'époque, des ouvrages qui paraissent sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, vous pouvez y penser, et le droit des associations et les associations, parce que ça va être la base de toute l'organisation des religions à venir. Dans la collection Sciences et Religions, ce sont en fait des petits fascicules. J'en ai un ici.
Les silex taillés et l'ancienneté de l'homme.
Par Albert de Lapparent. Le but de cette collection, c'était de faire le point sur un sujet scientifique d'actualité. Il y a eu énormément de titres. Il y a eu en tout près de 700 titres dans cette collection. Ça a été très diffusé. On va passer à la création de Blood & Gay. Francisque Gay, lui, il est né à Roanne en 1885. Edmond était né en 1876. Donc il est 9 ans plus jeune qu'Edmond. Son père a une entreprise de plomberie couverture et aussi, pour fortifier un peu, avoir des revenus réguliers, une quincaillerie avec. C'est un milieu qui n'est ni pauvre ni riche, quoi. C'est un représentant de la classe moyenne de province de l'époque. Et ils ont ce garçon, entre autres, Francisque, de santé fragile, mais qui arrive à faire ses études. Comme il est relativement brillant, il va rentrer en quatrième dans un collège religieux de Lyon. Et il va continuer jusqu'au baccalauréat. Il est tenté par la vocation religieuse et c'est très contrecarré par sa mère, qui pourtant est très catholique, mais n'est pas du tout cléricale. Mais il va persister et... Il va rencontré un peu par hasard le mouvement du Sillon à Lyon. Le mouvement du Sillon, ça avait été créé par un intellectuel français, Marc Sornier. C'était un polytechnicien, promotion 1899, fils d'une famille fortunée, qui veut diffuser et mettre en application les nouvelles encycliques du pape Léon XIII, et puis mettre en pratique aussi le ralliement de l'Église à la République, et agir dans ce sens-là. Donc, il va créer des cercles de réflexion à Paris et en province, qui donneront naissance au mouvement du Sillon, qui va durer presque jusqu'à 12 jours. Francisque Gay décide d'aller à Paris pour pouvoir rencontrer Marc Sornier. Il rentre dans un grand séminaire de la région parisienne en 1904. Il vient faire une visite à la librairie Blood. Il est reçu par Benoît Blood, qui est encore en vie, qui lui dit « Ah, j'ai pas de travail à vous donner pour le moment, mais revenez l'an prochain, j'aurai certainement quelque chose à vous proposer. » Ça tombe bien parce que en 1905, il y a la loi de séparation de l'Église et de l'État, il y a des congrégations qui on leur demande de déménager, et donc la congrégation qui dirige le grand séminaire est partie, donc il est sur le carreau. Du coup, il vient chez Blood, et là, il est reçu par Edmond, ils discutent ensemble, et il découvre qu'Edmond est aussi membre des cercles de Marc Sornier et qu'il va adhérer au Sillon. Donc ils ont tout à fait les mêmes vues, Edmond le fait travailler un peu. Francisque Gay continuera sa formation d'une manière un peu décousue parce qu'il faut qu'il finance sa formation. Alors il est un temps, il est journaliste au petit journal du coin à Roanne. Un autre moment, il est surveillant d'internat à Montpellier. Puis il revient à Paris, il suit des cours à la Sorbonne en auditeur libre. Donc c'est un peu chaotique comme formation, mais c'est un dévoreur de livres. Et toute sa vie, c'était un grand lecteur. Et en 1909, il rentre à la librairie comme chef de production chargé de la production des livres édités par la maison. Qu'est-ce qui va amener la création de Blood et Gay ? Eh bien, c'est que Edmond Blood a un frère, Henri Blood, qui est son copropriétaire, qui a la moitié des parts, et Henri, l'aîné, n'est pas d'accord avec la ligne éditoriale que veut prendre Edmond et désire se retirer. Ben oui, mais désire se retirer, il faut lui racheter ses parts. Edmond Blood va racheter 20% des parts de son frère et Francisque Gay va racheter les 80% des autres parts. Alors 80% des parts du frère, ça représente 40% des parts de Blood et Gay qui va se créer à ce moment-là. Et Francisque Gay finance ça grâce à la dot de sa femme. Il s'est marié entre-temps. Il a donc la dot de sa femme et des prêts de sa belle famille aussi pour financer cet achat. Tous les deux, ils accentuent un peu la rénovation de la librairie, du fond de la librairie. Ils vont rajouter une rubrique des littératures régionales, une rubrique régionaliste aussi. Et ils donneront aussi beaucoup d'ampleur aux nouvelles séries qu'avait créées Edmond. Et puis arrive la guerre de 14. Ni Francisque Gay ni Edmond ne sont mobilisés. Alors Edmond à cette époque a 38 ans et Francisque Gay lui il est réformé parce qu'il est toujours de constitution chétive et il sera toujours d'un tempérament maladif toute sa vie. Mais ils vont quand même participer à la guerre et vous allez voir de quelle façon il va participer parce que aux obsèques d'Edmond Blood, il y a un monseigneur qui a fait une allocution très intéressante, qui va, je pense, être une découverte pour tout le monde.
C'est le comité catholique, propagande.
Edmond Blood fut un de nos fondateurs, et nous croirions manquer à ce que nous devons à sa mémoire si nous ne rappelions pas le rôle qu'il a joué parmi nous dès les origines de notre comité, le comité catholique des amitiés françaises à l'étranger, qui a été une très importante action. Celui-ci est né au mois de février 1915 à la suite d'une démarche effectuée à la demande de Delcassé, alors ministre des Affaires étrangères, par M. Paul Claudel auprès de Mgr Baudrillard, recteur de l'Institut catholique de Paris. La propagande sévissait à cette époque avec virulence auprès des catholiques espagnols. Elle s'appliquait à leur démontrer que la cause de la France ne méritait aucune sympathie, ce pays étant devenu le centre d'un anticléricalisme militant qui s'était attaqué aux droits de l'Église et s'était acharné par toute une législation d'exception à ruiner la foi catholique jusque dans les masses populaires. À côté d'apparences de vérité fondées sur des faits, il y avait dans cette thèse de grossières erreurs. Le catholicisme français en 1915, quoique fort maltraité par les gouvernants qui s'étaient succédés dans d'autres pays, surtout depuis 1880, était loin d'avoir perdu son influence et avait déjà regagné, tant par l'apostolat populaire que par l'apostolat intellectuel, une bonne partie du terrain perdu. La manière aussi dont les accusateurs avaient mené la guerre appelait des protestations devant la conscience chrétienne. Pour les faire entendre, des publications étaient indispensables. C'est alors qu'entre en scène, aux côtés de Mgr Baudrillard, qui en prit la direction, le comité catholique de propagande, ça s'appelait propagande à l'époque, le comité catholique de propagande française à l'étranger. Pour donner toute l'expansion nécessaire à l'œuvre qu'il entreprenait et qui était vaste, le comité trouva le point d'appui et l'organe d'exécution dont il avait besoin dans la maison d'édition dont Edmond Blood partageait la direction. Nous tenons à dire le rôle qu'il joua pour défendre le bon renom de la France et faire valoir la justice de sa cause. Au sein du conseil d'administration qui, de 1915 à 1940, conduisit notre activité, Edmond Blood n'a jamais cessé d'être l'homme judicieux, entreprenant, fertile en initiative, dont tous ceux qui l'ont connu et ont travaillé avec lui ont admiré la largeur de l'intelligence, la culture étendue et la volonté solide. Sa connaissance de la langue allemande, qui était très forte, et de la politique de Guillaume II, lui permit d'apporter une contribution importante à l'un de nos livres collectifs, L'Allemagne et les Alliés, devant la conscience chrétienne. Il écrivit pour cet ouvrage un chapitre fortement documenté, dans lequel il fournit la preuve que la cause catholique n'avait pas été toujours servie comme elle aurait dû l'être par le grand parti du centre. Vers la fin de la guerre, Edmond Blood fit en Suisse un assez long séjour, au cours duquel il multiplia les démarches et les visites. Nous l'avons accompagné dans cette véritable tournée. Nous avons eu l'occasion d'apprécier en maintes occasions ses qualités de négociateur, son sens pratique, sa façon de conquérir les sympathies par la simplicité et la cordialité qu'il savait mettre dans les relations qu'on avait avec lui. Les résultats de ce voyage furent importants. Toute petite anecdote, il se trouve que à l'âge de 12 ans, j'étais en Suisse et reçu dans les familles le soir, puisque je faisais partie d'une chorale à l'époque, et qu'ils m'ont fait parler. Quand ils ont su que j'étais le petit-fils d'Edmond Blood, j'ai fini par le dire, admiration totale. Donc le comité a été actif. Edmond Blood créa, pour combattre cette propagande, des centres de diffusion et de distribution de nos publications. Il organisa même, avec notre concours, tout un réseau de correspondants qui nous rendirent de signalés services et dont quelques-uns, après la victoire, gardèrent liaison avec nous. Donc du cardinal Baudrillard.
Voilà. Alors, on ne va pas lire tout, mais je voulais que tu lises quand même ce petit paragraphe.
Ce que nous voulons dire encore, c'est qu'en 1945, après la libération, Edmond Blood a insisté auprès de nous, à maintes reprises, pour que nous nous remettions à l'œuvre, déjà gravement malade, il est mort 2 ans plus tard, immobilisé, condamné à l'inaction, il n'a pas cessé de se faire tenir au courant de nos efforts, de les suivre et de les encourager.
Oui, le comité de propagande, la question s'est posée après la guerre de savoir ce qu'on en faisait. Il a été transformé en comité des héritiers françaises à l'étranger. Et en plus, alors, la librairie a développé aussi des publications destinées un peu aux armées, aux troupes, enfin, pour les soutenir dans leur action. Et puis, il y avait quand même aussi beaucoup d'aumôniers dans l'armée. Donc, c'était aussi un lien entre les aumôniers. Après la guerre, effectivement, il va y avoir un peu une chute des ventes de les librairies. Il va falloir un peu refondre les orientations. D'autre part, Edmond Blood, qui était déjà, après la guerre, conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine, va développer son action politique. Et ça, c'était dans le cadre du Cercle du Sillon, qui poussait vers un catholicisme social et coopératif avec la République.
qui était à l'origine du MFP, ou le Parti Centriste, bien sûr.
Et à l'époque, son parti s'appelait Parti Démocrate Populaire, devenu après la guerre MRP. Donc, il est conseiller municipal de Neuilly-sur-Seine. Il sera conseiller général de la Seine. À l'époque, la Seine, c'est Paris, plus toute la couronne autour. Et il aura une fonction. Au conseil général de la Seine, il gérait le secrétariat du conseil, mais en tant qu'élu. C'était un énorme conseil général. Hein. Et après, il va être député de la Seine en 1928 et en 32. Et en 36, il ne se représentera pas. Alors, évidemment, ces charges-là l'ont un peu éloigné de la librairie. Il est toujours président de la librairie, mais Gay en est le directeur permanent, en quelque sorte. Hein. Il est devenu maire de Neuilly en 1928. Il avait eu un décès tout à fait inattendu du maire sortant, et il a donc été élu maire à ce moment-là. Il était maire au moment de l'occupation. Il a été révoqué par le gouvernement de Vichy début 1942, parce qu'effectivement, il n'était pas du tout collaborationniste. Mais sans ça, il avait de beaux rapports en allemand, d'une part parce que à la débâcle, il est resté. Le chef de la défense passive, lui, il est parti en exode. Le chef du nouvel hôpital de Neuilly, qu'on appelle maintenant l'hôpital américain, était parti aussi. C'était une des créations d'Edmond Blood, cet hôpital. Il venait d'être inauguré, il était tout neuf. Quand les Allemands sont arrivés, ils avaient quand même quelques idées que c'était de Neuilly. Ils ont trouvé que c'était une belle banlieue. Ils ont réquisitionné plein de choses à Neuilly. Ils voulaient réquisitionner l'Amérique qui était toute neuve et l'hôpital qui était tout neuf. Et ça, ils s'y opposaient fermement. Il les a beaucoup impressionnés parce qu'il parlait parfaitement allemand, Edmond Blood, et donc les négociations se sont passées en allemand. En plus, il se trouvait que dans les états-majors qui voulaient s'installer à Neuilly, il avait un ancien camarade qu'il avait connu quand il était étudiant à l'INA. Donc ça a facilité les contacts.
Hein. Il y a une anecdote sur la réquisition de l'hôpital municipal. C'est que le secrétaire général de la mairie à Neuilly a pris contact avec les associations d'anciens combattants de 1914, avec notamment l'association des Gueules Cassées. Quand les Allemands sont venus pour réquisitionner l'hôpital, où il y avait 200 places, tous les lits étaient occupés par des Gueules Cassées qui avaient des pansements, la dernière des horreurs. Donc les Allemands ont laissé tomber la réquisition.
Ils ont réquisitionné quand même près de 900 trucs. Il y avait l'état-major de tout l'ouest de la France qui était basé à Neuilly, le représentant de la Croix-Rouge allemande, les représentants des jeunesses hitlériennes, tout ça s'était logé à Neuilly, hein, ça faisait du monde. Hein. Il est révoqué par Vichy.
Et je crois que le motif officiel de sa révocation, c'est un défaut de participation. Oui. À l'effort national.
Il y aura l'effort de collaboration.
Faire des listes de juifs.
La publication d'une affiche.
Qu'elle avait préparée avant l'arrivée des nazis, qui est assez spectaculaire, on les aura.
Elle a été un peu affichée, mais pas trop quand même. Il y a eu, parce qu'il y a des gens qui sont opposés à cet affichage. Disons que Edmond Blood s'est un petit peu éloigné de la librairie proprement dit, pris par ses activités politiques. Mais il y avait d'autres activités politiques. À la librairie, ça a été la création du journal L'Aube. Dans le comité catholique français à l'étranger, ils avaient eu des contacts avec les Allemands après la guerre de 14-18. Ces contacts ont été interrompus par la prise de pouvoir de Hitler, totalement. L'Aube est née à peu près à ce moment-là. L'Aube est née exactement en 1932. Et une de ses bases, c'était de s'opposer au nazisme. Ce n'est pas un journal à très grand tirage, il a peut-être fait 10 à 20 000 exemplaires comme tirage, mais il était virulent contre les Allemands. Un des rédacteurs éditorialistes importants de ce journal, c'était Georges Bidault. Il y a eu des gens occasionnels, le général de Gaulle, alors simple colonel, y a écrit quelques articles aussi. On y trouvera Beuve-Méry, Pierre-Vincent Ponté, Tout ce groupe était aussi très lié à les librairies qui nous faisaient imprimer. La maison d'édition, elle transforme un peu ses éditions pour, d'une part, ouvrir des encyclopédies qui permettent d'exposer d'une manière plus accessible la foi catholique et tout ce qui l'entoure. Ils vont publier une histoire de l'Église en 24 volumes de 500 pages. Il y a de quoi faire. Hein.
Ça,
Plisch et Martin, premier volume 1934. Donc c'est effectivement un livre qui a fait autorité. Je ne sais pas si certains d'entre vous se souviennent de ce pape très fugitif, Jean-Paul Ier. Il avait donné un interview à une télévision française et dans son cabinet de travail. Et ma belle-mère, qui avait l'œil à tout, a reconnu qu'il y avait toute cette collection qui était derrière lui, quoi, à l'époque. C'est encore un livre de référence pour l'histoire de l'Église. Voilà, donc on arrive à la guerre de 1939-40. Les éditions Blood-Gay vont vivre pendant toute la guerre, se contenter uniquement d'une édition strictement religieuse. Mais en fait, à l'intérieur, c'était quand même un ensemble qui était favorable à la résistance. Et Francisque Gay a beaucoup animé la résistance d'une manière occulte. C'est un homme qui a réussi à animer la résistance sans faire partie d'aucun mouvement de résistance officiel. Mais énormément de réunions se sont passées chez lui. La librairie était installée aux 3 rue Garancière, juste derrière, c'est ça, au chevet de l'église. La maison d'édition occupait le rez-de-chaussée et le premier étage, et Francisque Gay avait son appartement au-dessus. Beaucoup de réunions se sont passées là. Même
ça a été un foyer de la résistance.
Ça a été un des foyers.
Jusqu'à d'ailleurs l'intervention des Allemands.
La maison d'édition, elle a servi de couverture des mouvements de résistance, notamment tous ceux issus de l'Aube. Bidault s'est trouvé comme ça, à fréquenter la maison d'édition pendant la guerre, où les gens avaient du mal à le reconnaître parce qu'il s'était affublé de moustaches. Bon. La librairie avait créé une succursale à Lyon, en zone libre. C'était effectivement une succursale qui servait aussi de relais à des mouvements de résistance. On va vous lire trois choses qui sont élus de ce livre-là, qui est un livre sur Francisque Gay, qui a été écrit par un de ses petits-fils. Vous allez voir, c'est une histoire très drôle. Le gouvernement de Vichy avait décidé de relancer les jardins ouvriers. Il distribuait une allocation de 150 francs à tout créateur de nouveaux jardins. Notamment, beaucoup de jardins qu'on voit aux gardes-barrières anciens ou au bord des voies ferrées, ça date de la guerre, mais il n'y a pas que les cheminots qui ont créé des jardins. Ils ont passé un accord aussi avec une fondation de jardins ouvriers, la Bellemire.
Le paravent des jardins ouvriers. Francisque Gay avait toujours une profonde admiration pour la Bellemire. Dans sa vie catholique, donc qui a été créée en 1926, on a oublié de dire ça,
oui,
il rendait compte très souvent des activités des jardins ouvriers de l'abbé avec qui il correspondait. Une action soutenue par Vichy. C'est le 21 octobre 1896 que fut créée par le MIR la Ligue française du coin de terre et du foyer, avec pour programme étudier et propager toutes les mesures propres à établir la famille sur ses bases culturelles, coin de terre et foyer. En 1903, il y a déjà 6453 jardins. En 1937, 70453. Mais plus de 500 000 initiatives, chiffres officiels. Ils sont environ 150 000 en 1941, selon les archives de Francisque Gay. Lorsque vint l'occupation, Francisque Gay, en charge de coordonner l'action des jardins ouvriers dans le cadre de la politique définie par le ministère de l'Agriculture, des lois de Vichy du 18 et 27 août et 3 décembre 1940, qui encourage ces jardins, entendu que pour celui qui serait créé avant le 31 mars 1941, une prime de 150 francs serait accordée. Le Secours national est chargé de promouvoir le développement massif des jardins ouvriers. Francis Queguet n'a toutefois aucun lien direct avec les autorités, mais prend très au sérieux cette tâche. Pour lui, là, rien de politique, mais simplement œuvre humaine. Comme la librairie, les jardins ouvriers sont pour Francis Queguet une mission passionnante, affranchie, tout de moins la conçoit-il ainsi, de toute compromission politique avec Vichy, tournée vers la solidarité humaine, les besoins immédiats, matériels ou spirituels des citoyens. Ce sont aussi des paravents possibles pour la résistance.
Ouais. Ça vaudra comme ça à Francis Queguet de disposer de laisser-passer quasi permanent pour aller voyager dans la France entière.
Voilà. La succursale de Bloudéguet à Lyon, repère de la résistance. Comme il avait créé des succursales à Barcelone et à Dublin pendant la Première Guerre mondiale pour aider la propagande française, Francis Queguet décide d'ouvrir une succursale, cette fois à Lyon, en zone dite libre, pour la mettre au service de la résistance. Il charge de cette mission un de ses plus proches collaborateurs, Henri Galabert, chef comptable de la librairie à Paris. Il nous a envoyé en éclaireur, ma fiancée et moi, à Lyon, en octobre 1941, et nous nous sommes mariés dans cette ville le 23 octobre, explique Henri Galabert. C'est M. Gay qui a poussé à ce mariage, car il trouvait dangereux pour un homme seul de vivre ainsi à Lyon. Bon, on a l'impression qu'il n'y a que Gay qui a tout fait, mais en fait, Edmond Blood aussi. Mais le livre est un petit peu partisan. Ouais. Bon, ça peut se comprendre. Nous avons pris un bureau de 30 mètres carrés, quai Saint-Clair. Officiellement, nous vendions des stocks, en particulier des films religieux. Et ça ne marchait pas mal. L'imprimerie Bussière à Saint-Amand-Moron, qui est toujours une très grande imprimerie aujourd'hui, était aussi une des adresses de la librairie. Mais, souligne-t-il, l'important c'était les contacts avec la résistance. Bidot venait souvent nous voir, à Lyon. Une fois, je l'ai rencontré avec sa moustache. Il tombe bien parce qu'il est venu avec sa moustache. Qui le rendait presque méconnaissable dans l'autobus. C'est notre appartement au deuxième étage, 90 rue de la Croix-Rousse, qui était le lieu le plus important. Nous en serions le dépôt d'argent. Un homme venu de Londres apportait des liasses de billets et les déposait sur une chaise précise de la librairie. L'argent était dans du papier d'emballage. Quelqu'un que nous ne connaissions pas plus venait les prendre quelques jours plus tard. Nous n'avons jamais posé de questions, indique Henri Galabert. Francis Queguet m'avait demandé cette mission. J'ai dit oui immédiatement. Nous n'avons jamais su qui venait apporter, qui venait prendre l'argent et quelle somme cela représentait. Toutefois, en janvier 1944, en raison d'une perquisition, nous avons caché l'argent dans des tas de charbon à la cave de la librairie. Qu'en est-il advenu? Nous ne le saurons jamais. Gay et ses amis aideront aussi le père Chaillet, un habitué de la rue Garancière, c'est-à-dire derrière l'église Saint-Sulpice à Paris, là, pour lancer en novembre 1941 le premier cahier du témoignage chrétien, qui ensuite a été donc le fameux journal, en lui fournissant leurs fichiers, dont Galabert et Bussière avaient une copie.
Et la troisième lecture, c'était...
C'est un peu pour montrer le démarrage de la résistance et de la lettre des éditions.
Comment gagner les amis de l'aube à la résistance? Francis Queguet, dans son mémoire d'octobre 1944 à son conseil d'administration, où il résume ses activités de résistance, raconte...
C'est-à-dire après la libération de Paris. Hein.
Oui. Mon cher Georges Bidault, libéré de captivité avec sa classe, veut bien me faire la confidence de ses activités. Tout naturellement, les anciens collaborateurs de l'Aube seront ses auxiliaires les plus dévoués, ses lieutenants les plus fidèles et les plus courageux. À la fin de cette même année, j'adresse ouvertement par la poste à tous les anciens abonnés de l'Aube une circulaire rédigée en termes assez peu voilés qui les invite à se regrouper en vue des tâches qui les attendent.
que Georges Bidault sera le successeur de Jean Moulin après l'arrestation de Jean Moulin. La Gestapo, elle cherche Max, c'est-à-dire Jean Moulin, tous ceux qui tournent autour des mouvements de résistance. Et puis, comme beaucoup de choses ont convergé vers la rue Garancière, c'est-à-dire la librairie Bloudéguet, ils décident d'une perquisition, mais assez tardivement, en avril 1944. Alors, Francis Queguet n'habite plus là, il habite déjà en banlieue, dans un truc caché, où il est caché, mais il y a toujours les collaborateurs de la librairie. Et c'était une quarantaine. Le jour de la perquisition, Francis Queguet n'était pas là, il est justement parti faire une tournée en province. Edmond Blood n'est pas sur place non plus, parce qu'à cette époque, il commençait déjà à être malade, et il venait environ un jour par semaine à la librairie. Évidemment, tout le monde dit, ah mais Francis Queguet, on ne sait pas où il est, parce que depuis quelque temps, il a disparu, on ne sait pas où il est. Donc ça a été la position, parce qu'il savait de toute façon qu'il était parti pour plusieurs jours, et que de toute façon, il ne reviendrait pas à la librairie comme ça. On a mis tout de suite des gens envoyés dans les gares parisiennes pour essayer de le choper à son retour, pour qu'il ne vienne pas se présenter à la librairie. Il trouve quand même, dans le personnel de la librairie Terre Noire, qui avait déjà été arrêté en octobre de l'année précédente, et Louis Terre Noire était le gendre de Francis Queguet. Il trouve aussi un autre collaborateur qui, malheureusement, dans ses poches, a un papier un peu compromettant. Ils arrêtent trois personnes quand même, là, les Allemands. Hein. Et ils saccagent l'appartement de Francis Queguet, où résidait à cette époque une de ses filles qui était restée sur place. Mais personne ne parle. On trouve bien des éditions un petit peu bizarres dans la cage d'escalier. Alors, ils se défendent en disant « Ah mais vous savez, c'est l'usage entre les éditeurs, les nouvelles éditions, on se les distribue entre nous pour en prendre connaissance, mais nous, on n'a rien à voir avec ça. » Alors, Francis Queguet revient à Paris. La surveillance mise en place dans les gares a payé, et c'est une de ses filles qui l'intercepte et qui le dissuade d'aller à la librairie. Parce que on le soupçonnait d'être Max. C'est là où il y a un événement très important, parce que pour la vie de la librairie, c'est que la librairie tourne à vide, puisque la famille de Francis Queguet et ses proches amis lui disent « Ne remettez plus les pieds à la librairie, c'est trop dangereux. » Il écrit une longue lettre à Edmond Blood, et c'est une lettre importante. Hein,
Cher monsieur, plusieurs fois, mes enfants, j'ai essayé de rencontrer quelques-uns de nos chefs de service ou employés principaux. Ils se sont tous refusés énergiquement à se rendre au rendez-vous que je leur ai demandé. Je dois donc vous fournir des explications. Je vous le dis un peu en diagonale. Hein. Comme vous le savez, je faisais un voyage d'affaires lorsque la police allemande est venue à la librairie. J'étais parti pour Lyon le mardi matin, à Marseille le 23, à l'hôtel de Noailles le 24. Je suis descendu à l'hôtel de France, puis à Toulouse, puis à l'hôtel Regina. Toute indication aisément contrôlable. Il se défend à l'avance des Allemands. De son côté, ma femme avait profité de mon absence pour aller dans Lyon chercher du ravitaillement. Seule une de mes filles, d'ailleurs très malade, se trouvait donc dans l'appartement. À la suite de la perquisition, des sévices contre quelques employés de l'arrestation de l'un de mes anciens collaborateurs et de mon gendre, M. Termoir, ma fille âgée de 24 ans a pris peur et n'a plus osé aller coucher rue Garancière. Elle s'est donc réfugiée en banlieue. Dans la journée du samedi, la police allemande, ayant trouvé ma fille aînée, Mme Ternoir, chez une vieille tante, l'a interrogée pendant plus de 2h30. Dans son état de santé, aggravé par les émotions de cette journée, l'interrogatoire auquel elle a été soumise constituait une véritable épreuve physique et morale. Bon, il s'en plaint beaucoup. Quand je suis rentré lundi matin, j'ai eu d'abord l'intention de me rendre rue Garancière ou rue des Saussets pour fournir à la police allemande toutes les explications qu'elle pouvait désirer. Ma femme, et plus spécialement notre grande malade, m'a adjuré de n'en rien faire. Après avoir longtemps résisté, j'ai finalement cru devoir céder. C'est donc pas de sa faute, c'est la faute de ses proches. Non seulement à cause de l'affolement, où cela pouvait mettre les miens, mais encore et surtout devant les raisons qu'on invoquait et dont j'appréciais la valeur. Certes, je garde encore l'absolue certitude que l'enquête la plus minutieuse ne saurait relever contre moi la moindre charge positive. Mais je sais que depuis l'armistice, Charles Maurras, son grand ennemi, dans l'Action française, multiplie contre moi les dénonciations les plus haineuses, les plus perfides et les plus dangereuses. Alors il développe les phrases hostiles de Charles Maurras.
Le primitif de Charles Maurras.
Assassine.
Oui.
Bon. Il le dénonce de faire partie de l'alliance communiste, etc.
Il se défend et il veut que Edmond Blood aille présenter ça aux Allemands. Or, à la librairie, quand ils ont été perquisitionnés, ils ont tous dit « mais on ne sait pas du tout, on n'a plus de contact ». Donc Edmond Blood, il garde cette position. Donc il ne peut pas présenter cette lettre, parce que c'est dire qu'il est en contact avec Francis Queguet. Et lui-même, il va être soumis à des interrogatoires sévères, rue des Saussées.
Oui. C'est à dater du 29 mars, donc c'est 1944, hein, que j'ai dû me rendre chaque semaine, rue des Saussées, chambre 537, puis 531, aux ordres de la Gestapo, d'ordinaire, sur convocation téléphonique, à moi adressée, à mon domicile personnel à Neuilly. Avant de procéder à la réouverture de la librairie, l'inspecteur qui m'avait, entre guillemets, prise en charge, déclara me tenir pour complice de Gay. N'ayant pu obtenir de moi la dénonciation qu'il exigeait, c'est-à-dire l'adresse de ce dernier, il déclara se réserver de procéder à mon arrestation sans préavis, quand bon lui semblerait. Il n'ignorait pas ma révocation de maire de Neuilly par M. Pucheux pour gaullisme, et c'était là, selon lui, une raison plus que suffisante. Il me dit que j'avais été vu plusieurs fois en compagnie de Gay, que j'aurais même déjeuné avec lui dans le quartier Saint-Sulpice. Je niais, il n'avait pas le moindre élément de preuve, et pour cause. Le même jour, il me demandait l'adresse de tous les enfants de M. Gay, que je déclarais ignorer. D'ailleurs, il n'insista point, étant beaucoup mieux renseigné que moi-même. La surveillance exercée contre moi fut alors plus serrée. Mon téléphone était à la table d'écoute. Je fus recommandé à la Feldkommandantur locale. Ma présence fut, tant que dura l'affaire de la librairie, constamment vérifiée. Je comparus 6 fois rue des Saussées. On m'obligeait à parler exclusivement en langue allemande, escomptant la fatigue et la longueur d'interminables interrogatoires. J'ai dû gravir à pied les 5 étages conduisant aux chambres 537 et 531 et les redescendre chaque fois qu'il y avait alerte, et c'était constant. Oui. J'ai toujours conservé la même ligne de conduite. Je représentais seulement les intérêts des actionnaires et n'avait point, dans le passé, pris une part active dans la direction des affaires. Oui. On me demanda les noms des principaux actionnaires et on me cita même comme étant de ceux-ci. Certaines personnalités marquantes, principalement du Parti démocrate populaire, Georges Bidault, Champetier de Ribes, etc. C'était d'ailleurs absolument faux. J'avais mis les registres à l'abri chez moi. Ils ne me les réclamèrent point. À un certain moment, je reçus l'ordre de faire disparaître de la firme le nom de M. Gay pour appeler celle-ci Blood et Cie.
Blood et compagnie.
Je me retranchais derrière la nécessité de convoquer une assemblée générale et gagner ainsi du temps. On me demanda la liste complète des imprimeurs ayant travaillé pour moi depuis la guerre. Comme toute la comptabilité était à leur disposition, il ne m'eût servi à rien de refuser. Je fournis une liste quelconque. Pour m'amener à la dénonciation souhaitée, fort heureusement ces adresses qu'ils voulaient, je les ai toujours ignorées, et voulu les ignorer car je redoutais, je ne cache pas, les moyens de pression dont ces messieurs disposaient. et qui furent employés plus d'une fois dans mon voisinage. On m'affirma que le cas de M. Gay n'était pas pendable, qu'il n'était pas accusé d'espionnage et que le principal grief qu'on avait contre lui était sa fuite. On croyait qu'il remplissait cependant, dans la résistance, un rôle important et faisait partie de ce qu'ils appelaient le Conseil des Anciens. Au surplus, au cours des nombreuses visites domiciliaires qui firent rue Garancière et au cours desquelles plusieurs employés furent cruellement brutalisés, arrêtés, de nombreux documents et tracts furent trouvés suffisants pour échafauder une accusation collective de propagande occulte. Je n'eus probablement affaire qu'à des fonctionnaires subalternes et peu ou pas au courant de la politique. C'est pourquoi, sans doute, ils ne firent jamais allusion ni à l'Action française, ni à aucun membre de ce parti. Ce fait ne put que se confirmer dans la conviction que le mémoire que M. Gay m'avait fait tenir avec mission d'en tirer état devant la Gestapo eût été parfaitement inopérant. Il s'agit de la lettre précédente. Notre conseil d'administration et les chefs de service qui le jugèrent inutilisable dès la première lecture et compromettant pour son auteur ne s'étaient point trompés. Chaque fois qu'ils vinrent rue Garancière, les inspecteurs se livrèrent à un examen très minutieux de la correspondance, emportant tous les tracts qu'ils y trouvaient, celles de M. Gay et des membres de sa famille. Plusieurs lettres venaient d'Allemagne et étaient adressées à Mademoiselle Gay. Elles furent vues avec curiosité, mais n'attirèrent point spécialement l'attention. Je crois même qu'elles ne furent pas emportées. Au cours de toutes ces épreuves, je fus aidé et encouragé par M. Marcel Rives, président du comité d'organisation de la librairie, à qui une de nos principales employées, Mademoiselle Jeanne Durand, eut aussi maintes fois recours. Mademoiselle Durand se déclara toujours satisfaite de ses démarches. Par suite de cette existence si éprouvante, mon état de santé déjà précaire s'est aggravé et l'impotence fonctionnelle de mes membres inférieurs est devenue complètement incurable. Du moins, n'ai-je pas un seul instant mis en péril la réputation de M. Gay, non plus que celle d'aucun de ses amis, et ai-je pu, dans la mesure où il pouvait l'être, sauvegarder les intérêts dont j'avais la charge et en tout cas assurer l'existence d'un personnel qui comptait au mois de mars 45 personnes. Toutes ces mesures inquisitoriales se prolongèrent jusque dans les premiers jours du mois d'août. Toutefois, les recherches concernant M. Gay personnellement avaient dès le milieu du mois de juin perdu beaucoup de leur intensité. Monsieur Gay venait souvent dans le quartier Saint-Sulpice, on ne pouvait l'ignorer. Mais d'une part, les arrestations opérées à la librairie suffisaient à la Gestapo. D'autre part, j'étais un otage qui ne pouvait pas se dérober. Enfin, ils se persuadèrent de plus en plus que le rôle personnel de Monsieur Gay avait été subalterne et que son arrestation ne présenterait que peu d'intérêt.
Francisque Gay, revenu à la librairie après la libération, reproche à Edmond Blood de ne pas avoir fait état de cette fameuse lettre aux Allemands. Est-ce qu'il a voulu essayer de convaincre Francisque Gay?
Après 40 ans d'amitié réelle et de bonne collaboration, c'est dommage, ça se termine sur une querelle.
Alors, si la première perquisition a eu lieu en fin mars, avril, mai, débarquement est au mois de juin, mais le front ne craque définitivement qu'en juillet, la percée d'Avranches, quoi. Alors Gay revient à Paris, reparaît, disons officiellement, après la libération de Paris. Hein. Alors ce qui s'est passé entre les deux hommes, c'est comme la défense d'Edmond Blood par rapport à la Gestapo Je ne sais pas ce qu'est devenu M. Gay. Il est toujours au conseil d'administration. Donc, ils vont effectivement prendre une délibération pour qu'il ne soit plus au conseil d'administration. Et c'est ça que Francis Gay ne supporte pas. À la libération,
il demande à réintégrer.
Et Montblou est tout à fait d'accord pour le réintégrer, mais il faut reconvoquer un conseil d'administration. Or, à Paris, le vide s'est fait aussi. Hein. Pour convoquer un conseil d'administration, il faut quand même un certain temps, comme les gens se sont dispersés aux quatre coins. Francis Gay, qui fut pourtant partie d'organes gouvernementaux à l'époque, s'impatiente quand même. Il y a une décision du ministre de l'Intérieur de l'époque qu'il soit réintégré d'office.
Ce qui a été le cas.
Il n'a pas attendu que les formalités se déroulent normalement, quoi. La maison d'édition a tenu jusqu'en 1951, où ils ont déposé le bilan, plus ou moins. Et elle a été reprise par les éditions Des Clés de Brouwer en 1954.
Juste avant, peut-être, les funérailles d'Edmond Blood.
Edmond Blood avait été maire de Neuilly, élu avant-guerre et maintenu au moins au début de l'occupation, à 40 et 41, et révoqué par Vichy. Mais à la libération, tous les maires ont été révoqués et déclarés inéligibles. Edmond Blood, lui, il avait été révoqué par Vichy bien avant. Alors, ce qui fait qu'il y a eu une deuxième ordonnance qui ont réintégré dans leurs droits de maire les maires qui avaient été révoqués par Vichy. Donc, en 1945, Edmond Blood est réintégré, s'il le voulait, comme maire, mais là, il est en trop mauvaise santé et il ne reprend pas sa place. Mais il est donc lavé de suspicion de collaboration. Mais ça ne va pas arranger pour autant ses relations avec Francis Gay. Francis Gay, il est mort en 1960 et quelques.
Et donc il est resté à la librairie jusqu'à la fin, jusqu'en
51.
Ah, justement, il était ambassadeur au Canada, il exigeait que toutes les notes soient signées par lui et lui soient envoyées. Il a ralenti la production de la librairie beaucoup, parce que ça prenait des délais importants et ça a gêné.
Donc la librairie a disparu, rachetée par Des Clés de Brouwer. Mais là, j'ai une publication de Madame Gay, parce que Madame Gay avait fait un best-seller entre les deux guerres, c'était « Comment j'élève mon enfant ». Et là, elle avait récidivé en parlant des grand-mères après la guerre, et qu'elle a publié chez le successeur de Blood, mais avec le nom de Blood et Gay quand même.
Les grand-mères d'aujourd'hui.
Voilà.
Un mot quand même sur les funérailles d'Edmond Blood organisées par la mairie. Et là, j'y ai assisté. C'était très impressionnant. Il y avait le conseil municipal d'avant la guerre, le conseil municipal nouveau avec Achille Perretif.
Il était maire à l'époque, oui.
Le carrosse avec les chevaux a traversé tout Neuilly. Et là où j'ai commencé à comprendre qu'il se passait des choses, ils se sont arrêtés devant la mairie. Oui. Et il y a eu au moins peut-être 5 minutes pleines de silence total.
Mais ils ont inauguré une rue devant la mairie.
Quand on regarde la mairie en face, à gauche, ça s'appelle la rue Edmond Blood, maire et député de telle date à telle date. Avec une petite querelle, puisque la première plaque, c'était maire jusqu'en 1941.
Oui, c'est drôle.
Ce qui a été, après la guerre, changé.
Et après, ils ont changé. C'est
la date de la réhabilitation dont je viens de parler.
Voilà.
Ils sont restés brouillés jusqu'à la fin.
Ah oui.
Oui, ça ne s'est pas réconcilié.
Ça ne s'est pas réconcilié du tout.
Georges Bidault, du Conseil national de la résistance, tu dis ce qu'il est devenu?
Il est devenu président du Conseil.
Oui. Voilà.
Il avait succédé à Jean Moulin au Conseil de la résistance.
Et les intellectuels catholiques de l'époque 1900, qui étaient réellement des pacifistes, contrairement à aujourd'hui où on dit que tous les gens de droite sont des nationalistes. Bon, à l'époque, c'était des pacifistes. Et lorsque ils ont été réhabilités, ils se sont trouvés dans le parti politique dirigeant, MRP.
Mais entre les deux guerres, on les appelait les catholiques rouges, c'est vrai.
Ok, écoutez, merci beaucoup. Vraiment bravo.
J'imagine, c'est une page quand même peu connue et très intéressante.
Alors, bon, il y a ce livre sur Francisque Gay. Malheureusement, il ramène la couverture à Francisque Gay et il parle d'Edmond Blood à contre-cœur, disons. Une anecdote toute simple. Edmond Blood habitait passage Saint-Ferdinand, à Neuilly. Dans ce passage, il y avait une autre famille intéressante, c'est la famille Monterland, la maison d'en face. Et donc, le jeune Monterland, à la première publication, il vient voir Edmond Blood pour être publié. Edmond Blood accepte de s'occuper de la publication au titre de façonnier, en quelque sorte, pour lui. Hein, parce que ça ne rentre pas dans le domaine de l'édition Blood et Gay. Ce monsieur qui écrit ce livre, un petit-fils de Francisque Gay, il cite le passage comme si c'était Francisque Gay qui avait tout fait pour cette édition. Il a connu l'édition, il a laissé faire, bien évidemment. Mais c'est Edmond Blood, en fait, qui avait fait cette édition.
Librairie comme ça, catholique. Bon, en plus, un intellectuel germanophile, pour les Allemands, dans un premier temps, ils se disent ça craint rien. Ces gens-là, ils ne peuvent pas être dangereux. Et puis, ils ont aussi un public, évidemment.
Oui.
Les catholiques, il y a quand même une partie des catholiques qui ne sont pas en résistance, même si c'est la majorité, hein, qui supétent tout ça. Donc, il y a une sorte de couverture un peu naturelle. Évidemment, il y a une ruse, que Blood, lui, il ruse, parce que lui, il a des convictions, on va dire chrétiennes, plutôt de gauche,
pour simplifier. Bon, oui, 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 non, mais c'est voilà. Exactement ça. Bon. Oui.
Et le problème après avec Gay, c'est que Gay, lui, il est très engagé dans la résistance, il espère, à un moment, obtenir une espèce de protection, mais Blood, lui, il a peur, et on peut comprendre, quelque part, parce qu'il a, lui, il a toute sa famille, il a toutes les responsabilités qu'il a avec tous les autres.
45 personnes.
De sa librairie, voilà.
Il dit 45
donc,
personnes.
Donc, celui-là, on va tous couler. Et donc, il y a un affolement, mais qui est compréhensible, qui n'enlève rien à, on va dire, sa justesse d'homme, de résistant même, de certaine façon. Oui. Mais évidemment, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Lui, il se retrouve au fond à la libération, dans la position la meilleure politique. Mais il y a un moment où ils auraient pu y passer tous, au fond.
C'était pas évident. Hein. Jean Blood, qui fait partie de l'Ibérie, fait aussi partie de la résistance. Alors ça, je l'ai su par un moyen tout à fait différent. Alors que je ne connaissais pas la famille Blood, je vais en Auvergne, aux obsèques d'un cousin de mon père. Il avait été à radio pendant la résistance. Donc après les obsèques, il y a un déjeuner. Une dame avec un garçon et une fille qui se présente, mais je suis Madame Blood. Moi, je ne sais pas qui c'est du tout à l'époque, Madame Blood. Elle m'explique, mon mari n'a pas pu venir parce qu'il est à Paris en ce moment, mais moi, je suis en vacances avec mes enfants, donc je viens aux obsèques. Ils ont été très liés pendant la résistance. Le cousin de mon père qu'on enterrait, lui, il était donc radio pour la résistance, et éventuellement réparateur des matériels radio. Mais il s'est retrouvé proche du Parti communiste. Mais il était en contact, je ne sais pas comment, avec Jean Blood, qui faisait aussi de la résistance. Je suppose que Francisque Gay ignorait totalement que Jean Blood faisait de la résistance. Disons que toute la maison d'édition était pour la France libre, mais d'actifs, on ne savait pas trop qui était actif ou pas, quoi. J'ai ce témoignage, alors que je ne connaissais pas du tout la famille Blood à l'époque. Je n'ai connu ma femme que 10 ans plus tard.
C'est une publication qu'on a bien connue après-guerre. Les gens achetaient ça à la sortie de la messe. C'est La Vie catholique illustrée.
Il y a le témoignage chrétien aussi.
C'est pour ça qu'il y a eu une place de Monseigneur Chaillet, je
crois. Oui, c'est ça.
Parce que le témoignage chrétien était quand même distribué clandestinement pendant la guerre.
Mais il y avait une grosse différence entre les catholiques allemands, les catholiques espagnols, les catholiques français. Ils se débinaient les uns les autres. Et c'est pour ça qu'avait été créé en France le comité de la propagande française catholique pour redresser la propagande allemande qui était très très mal tournée pour les catholiques français.